BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission, l'association de la semaine. La semaine dernière, nous recevions Jacques Fay et Dominique Kieffer qui nous ont parlé du CSADN. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une toute nouvelle association présentée par Alain Estival. Il est là pour représenter le SPN Vernon Basket. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va très bien. C'est plus le temps estival, mais...
Oui, on se rapproche là.
On l'a chaque année.
Là, c'est vraiment le temps qui commence à faire bien frais. Du coup, qui êtes-vous pour nos auditeurs ? On va commencer par ça. Présentez-vous, qui êtes-vous ?
Alors, je ne vais pas me présenter de tout. Moi, je vais me présenter de ce que je fais aujourd'hui au SPN Basket, où je m'occupe de la communication, structure de plus en plus notre club, et qu'on a estimé qu'il fallait, même si l'année dernière on avait bien commencé, d'avoir un chargé de com'.
Donc, vous êtes vraiment tout ce qui est communication pour aider le club à grandir.
À grandir, à se faire connaître, à être présent là où il doit être.
Exactement. Donc, on est là pour parler du SPN Vernon Basket. Présentez-nous un peu l'histoire de ce club.
Alors, le club de basket de Vernon est né en 1930, c'est-à-dire 2 ans avant que le basket soit reconnu comme sport olympique. C'est assez surprenant. Et c'est un club qui a toujours fonctionné, avec des hauts et des bas, comme tous les clubs. Et moi, je suis arrivé à 7-8 ans, et mon fils y était déjà. Et donc, depuis 8 ans, on est monté de R3 à R2, et en pré-national. Et il y a 3 ans, on est monté en National 3.
National 3, qui est la troisième division
de championnat de France.
Du championnat de France.
On n'a fait qu'un passage, même si on est resté 2 ans, difficile, parce qu'on n'avait pas les moyens, parce qu'on ne s'y était pas bien préparé, et que l'équipe qui nous a monté en pré-national était un peu âgée.
Ouais.
Il a fallu...
En fin de cycle.
En fin de cycle, oui.
Donc après, il faut réussir à renouveler. Et
renouveler, et on a eu l'arrivée de Jean-Philippe Taillman, qui est un ancien pro, qui a été 2 ans de suite meilleur joueur de Pro B, et qui a pris les rênes du club, en lui donnant une tournure un peu plus pro, avec une volonté de construire les jeunes, de créer un système où les jeunes auraient leur place et préparer la remontée en National 3.
On reparlera juste après de Jean-Philippe, parce qu'aujourd'hui, vous avez même 2 anciens pros au sein du club. Donc, on parlera de ça juste après. Mais on va parler un peu de l'histoire du basket, parce que ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous êtes vraiment très connaisseur dans ce sujet.
Oui, l'histoire du basket est quand même très intéressante, très, très particulière par rapport aux autres sports. Elle est née en 1890 dans le Massachusetts. Et c'est un pasteur qui était à la fois professeur de théologie et professeur de sport qui a, sous les consignes de son directeur d'école, a dû créer un jeu parce que les jeunes, l'hiver, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, il était dans sa petite chambre, comme il dit, il a écrit. Et puis, il avait sa corbeille à papier qui était au-dessus de l'armoire. Il écrivait sur des feuilles blanches les jeux, les règles qu'il pourrait mettre en place, le plan du terrain. Et comme ça lui plaisait pas, il froissait la feuille et il jetait ça dans la corbeille en haut de l'armoire. C'est comme ça qu'il s'est dit, mais c'est pas si mal que ça, ce jeu.
C'est pas si mal d'avoir un petit panier comme ça en hauteur et de balancer.
Voilà. Alors, le premier match de basket, c'était avec un panier, un cajou à légumes, où il n'y avait pas de trou, donc il y avait une échelle pour monter chercher la balle.
Oui, il me semblait avoir lu ça, oui, c'est vrai.
Et bon, ça a vite disparu. Ils ont dit.
Tant mieux, parce que ça aurait été très long, les matchs.
Oui, c'est déjà assez long, mais là, ça aurait été très long. Et le basket a pris une ampleur extraordinaire aux États-Unis. Et je précise, garçons et filles. C'est-à-dire que le basket féminin n'a pas été à la remorque du basket masculin.
À la différence des autres sports où le sport féminin est arrivé quasiment pour tous les sports après le masculin.
Tout à fait. Et les Américains ont commencé le basket et l'ont fait rentrer en France pleinement avec la guerre de 14-18 et des choses de 14-18 où ils ont montré aux Français comment jouer au basket. Et là, les patrouilles, parce qu'à l'époque, il y avait les patrouilles le mercredi et pas le jeudi,
oui,
avait des cours de patronage qui étaient trop petites pour faire du foot, donc ils ont fait du basket et les prêtres ont joué un rôle très important, ce qui fait que dans les clubs même de National 1 aujourd'hui, enfin de Pro A, il y a des restes de ce style patronage. L'Alsace-Lorraine n'y est plus, mais les Lambert-Arnais, l'éveil de Villeurbanne, bon maintenant ils ont d'autres noms, mais il garde quand même ce nom d'origine.
Ouais, il garde ce côté historique aussi.
Tout à fait. Il faut dire aussi que le basket est de nature religieuse ou chrétienne, hein, puisqu'on lève la main quand on fait la faute.
Oui.
on ne doit pas toucher son adversaire. Beaucoup de respect pour son adversaire. Il y a peu de bagarres au basket. Je dirais même que, puisque pour être dans l'air du temps, il n'y a pas beaucoup de racisme.
Mm.
Moi, j'en ai pas entendu de racisme dans les gymnases où il y a du basket.
Peut-être parce que depuis plusieurs années, on a beaucoup vu ça comme un sport, notamment au travers de la NBA, un sport pour Afro-Américains.
Oui, il y a ça.
Parce que là, je n'ai pas les stats, mais je pense que la majorité des joueurs NBA sont d'origine Afro-Américaine.
Tout à fait. Vous savez, quand je m'occupais d'un club de basket en région parisienne, on disait que 10 blancs, ce n'est pas une bonne équipe, 10 noirs, ce n'est pas une bonne équipe, il faut 5 noirs et 5 blancs. Et là, ça fait un bon club.
Un beau melting pot aussi.
Donc ça vient, je pense que c'est le sport antiraciste par excellence.
Et on voit, on a vu aussi dernièrement en NBA toute une grève, toute une manifestation,
oui,
pendant plusieurs jours à cause des actes racistes aux États-Unis.
Tout à fait. Et les Français ont pris une part aussi.
Exactement.
C'est vrai que la colonie française au NBA est importante.
Oui, et avec quand même un des plus grands joueurs, le plus grand joueur français de tous les temps déjà, je pense qu'on peut le dire, Tony Parker.
Ouais, encore que moi qui ai connu Alain Gilles et tout ça,
oui,
si Alain Gilles aurait eu la NBA, il aurait été en NBA.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais ça ne se faisait pas. Ou Hervé Dubuisson.
Hervé Dubuisson, exactement. Ah.
Qui regarde toujours le basket. Ben,
oui, affinités. Bien sûr. Mais Tony Parker a pu profiter du...
Oui, je pense que Tony Parker a dû vivre... a dû voir ses joueurs pour après faire sa carrière. Encore que son père était un joueur américain.
Son père était un américain, exactement.
Donc on a une histoire. Le basket, c'est le deuxième sport national.
Oui, on en parlait, ça.
Oui.
Le deuxième sport qui a le plus grand nombre de licenciés. Le deuxième sport collectif, pardon.
Ouais, tout à fait.
Après le football.
Et bon, les gens ne le croient pas, puisqu'on ne nous voit pas à la télévision. Encore que là,
oui, ça commence.
Il y a un renouveau.
Ça commence à venir avec un partenariat entre la Ligue nationale du basket et la chaîne L'Équipe qui va passer, je crois que c'est qu'une fois par semaine.
Voilà, on verra moins de pétanque, on verra plus de basket.
C'est sympa aussi la pétanque.
C'est sympa, oui, mais c'est sympa.
Mais c'est vrai que c'est ça qui manquait aussi en France, c'est qu'on n'a pas de basket sur les chaînes gratuites.
Oui, tout à fait, on a un manque de communication très importante. Beaucoup le reprochent à la FFBB. Ce qui fait que la FFBB ne vit que par ses clubs qui font le travail.
Mm.
Parce que les clubs de basket sont souvent connus dans leur secteur.
Oui, c'est ça, exactement. Et ce qui est problématique aussi, c'est même les matchs de l'équipe de France de basket, finalement, on les voit quasiment jamais.
Jamais.
À part quand ils vont très loin.
Enfin, oui.
On a de la chance, c'est qu'ils vont souvent loin dernièrement.
C'est ça, oui.
Mais voilà, on avait dû...
Garçons et en filles.
Par exemple, en 2019, quand la France élimine les États-Unis, c'était sur une chaîne payante. C'était pas encore sur une chaîne gratuite.
Oui, tout à fait. Non, mais on a un vrai manque. Quand je vois d'autres sports que j'aime bien aussi, le hand qui a une meilleure communication que nous.
Oui, c'est un problème de communication pour vous.
Oui, moi, je pense que c'est un problème de communication. C'est pas un problème d'effectif.
Au sein de la fédération elle-même.
Oui, tout à fait.
Donc, il faudrait faire tout un remue-ménage.
Oui, enfin, c'est fini. À mon âge, je ne le ferai pas. J'en ai fait assez dans ma vie.
Maintenant, vous gérez bien la communication de Vernon, donc c'est bien.
Oui, c'est déjà bien. C'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que dans ma vie, j'ai eu des responsabilités où j'ai toujours attaché de l'importance à la com.
Oui, c'est important.
C'est très important.
C'est une vie. C'est aussi. Ça fait vendre le club, en fait. Ça fait vivre le club.
Tout à fait. Et. C'est aussi, c'est bien de faire, par exemple, nous, on mène une politique pour les jeunes. On s'est donné 4 ans de monter les jeunes au plus haut niveau. Et s'il ne suffit pas de le faire, il faut le dire aussi.
Oui.
Ça se voit.
C'est ça, ouais. Exactement. Et donc aussi, on va revenir un peu du coup sur le club maintenant. Il y a tout un travail de formation, j'ai l'impression, quand même, dans le club.
Oui, alors ça a commencé avec l'arrivée de Jean-Philippe, qui a mis l'accent sur les équipes de jeunes. Et ça prend de l'ampleur, mais vous savez, pour monter un club, il faut 4-5 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un petit plan sur 4-5 ans. Et aujourd'hui, sur les 5 équipes qu'on a engagées pour jouer en régional, il y en a sans doute 4 qui seront
un très haut niveau.
Qui sont à ce niveau-là. Et sur les quatre, je pense qu'il y en a deux qui peuvent jouer le top 5.
D'accord. Ce qui est quand même énorme.
C'est énorme, c'est bien. Et puis, on a le plaisir d'avoir une section féminine qui prend de l'ampleur.
Oui, alors c'est ça aussi, je voulais qu'on parle, la section féminine. Du coup, vous avez une section jeune et une section senior, c'est ça?
Oui, on peut, c'est-à-dire que les seniors... Oui, c'est ça. On a une section senior avec, je pense, trois équipes, dont la première qui joue en prénat et qui, je pense, jouera les premiers rôles. Je ne pense pas qu'ils puissent monter.
Mais ils ne seront pas loin.
Ils ne seront pas loin. Et puis, on a une dizaine d'équipes de jeunes, dont une U13 de filles qu'on a depuis 3-4 ans, qui ont commencé le basket à 7-8 ans et qui, évidemment, commencent à toucher la balle.
Commence à grandir avec vous.
Voilà, tout à fait. Et sont ensemble depuis le début.
C'est ça aussi, c'est que vous formez, vous avez vraiment fondé une vraie équipe féminine.
Oui, on voudrait aller plus loin. Bon, on a commencé avec zéro, pas tout à fait zéro, parce qu'on avait une équipe senior. Mais là, on ne l'a plus. Mais on aura une équipe U13 et une U15.
D'accord.
Donc, c'est un club qui travaille en profondeur, comme on dit. Mm. Et je pense que les résultats, on ne les obtient qu'au bout de 3-4 ans, si on n'a pas l'incident.
Oui, c'est ça.
La vie associative est aussi fait d'incidents.
On a vu aussi, on l'a pu le sentir, notamment avec toute la crise du Covid ou toutes les associations.
Alors oui, j'écoutais dernièrement qu'il y a des sports qui en prennent un peu plus que nous. Visiblement, le basket et la gymnastique et le foot, ça c'est normal, le foot,
ouais,
n'ont pas trop subi. Mais pour les clubs qui sont en salle, les judo, tennis de table,
ouais,
ça baisse.
Une vraie souffrance.
C'est une vraie souffrance, oui. Mm. Bon, ils vont revenir, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent.
Oui, il faut laisser le temps au temps.
Le temps au temps. J'entendais un journaliste qui disait que les gens ne revenaient pas parce que ils avaient payé pour l'année et leurs enfants n'avaient pas joué toute l'année.
Mm.
Mais c'est le but, c'est l'obligation dans un club. C'est pas un club, c'est pas un prestataire de service.
C'est ça.
C'est une association qui ne vit que par, pas que par, mais vit avec les cotisations. Donc quand on adhère à un club, on adhère toute l'année, malgré les vicissitudes.
On se doit de participer vraiment
à
la
fait.
Vie du club.
Tout à fait.
Revenons du coup à tout ce côté formation. On parlait donc du coup de Jean-Philippe. Avec deux anciens pros, alors
oui, et on est riche.
Il y a un tout nouveau pro qui arrive maintenant.
Tout à fait, Angelo qui va s'occuper des U20.
Alors c'est Angelo Tsatsarakis.
Oui, c'est difficile à prononcer.
Oui, je préfère le lire dans la tête que de le dire.
Oui, tout à fait. Angelo qui va s'occuper des U20. Nous avions depuis 3-4 ans, nous n'avions plus de U20, et aujourd'hui la U20 c'est un peu la réserve de l'équipe première. C'est-à-dire
ouais.
que ceux qui sont en U20 aujourd'hui, ils peuvent prétendre jouer en équipe première un de ces jours. Le problème à Vernon, c'est le problème numéro un, c'est qu'il n'y a pas d'université.
C'est ça.
Ce qui fait que les jeunes sont obligés de s'expatrier à Paris ou à Rouen.
Paris, Rouen, Caen même. Ouais.
Et donc, on les perd.
C'est ça le problème. Oui, mais j'ai parlé avec beaucoup d'associations sportives qu'on a déjà reçues et... C'est toujours le même constat.
Tout à fait.
Ces âges-là, de 18 à allez, 25 ans, 26 ans, où il y a souvent un creux, c'est souvent
tout
difficile.
Je pense qu'un jour, ça fonctionnera, parce qu'avec les systèmes électroniques, les systèmes de télévision, ce qu'on voit aujourd'hui avec le télétravail, je pense qu'un de ces jours, on aura des universités décalées,
ouais.
déportées. Donc Vernon pourra jouer toutes ses chances.
Donc cette équipe U20 avec en coach Angelo Tsatsarakis, c'est vraiment tout un projet construit autour de lui et avec lui-même.
Oui, Jean-Philippe, oui, tout à fait. Tout à fait, on peut dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres entraîneurs ne sont pas bons. Hein.
Non, bien sûr. Mais c'est une vitrine parce que c'est un
voilà,
ancien pro, quelqu'un de reconnu dans le monde du basket.
Et puis maintenant qui est chroniqueur à la télévision pour le basket, c'est formidable.
Oui, exactement, c'est vrai.
Je ne sais pas s'il va nous faire de la publicité, mais en tout cas, on pourra le dire. En tout cas, toutes les équipes sont encadrées. On a fixé notre chiffre à 200 adhérents, parce qu'au-delà de 220, 230, on se retrouve en difficulté d'encadrement et surtout d'heures de vacations d'entraînement. Donc, faut pas aller trop loin et trop vite.
Manque de personnel, manque de temps, quoi.
Voilà.
Mais là, vous êtes vraiment dans le...
On est bien. Pour l'instant, on est bien.
Ce qu'il vous faut.
Ouais, tout à fait. Et on est dans notre ligne de ce plan en 4 ans.
Venons du coup à cette saison. Elle a déjà repris cette saison ?
Alors, elle aurait dû reprendre la semaine dernière. Et puis, on a été à la dernière minute. Le Covid nous a freinés. Et donc, les matchs ont été reportés. Sauf pour les jeunes qui ont fait déjà un tournoi, puisque ça se passe en forme de tournoi pour savoir quels sont ceux qui resteront en régional et ceux qui redescendront en départemental. Et pour l'instant, on a les bons résultats qu'on souhaitait.
Ok. C'est vraiment tout roule comme il faut pour l'instant. Pour les jeunes.
Oui, pour les jeunes, ouais. Pour les jeunes. Ils sont là, en tout cas. Ils sont très, 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 très présents et ça nous plaît.
Et le report du coup du début de saison pour les seniors, j'imagine, c'est ça ?
Oui, et on reprendra le 10.
10 octobre.
10 octobre, oui.
D'accord.
Si tout va bien.
À cause du passage en zone de circulation active du département ?
Voilà, tout à fait.
Et donc, ouais, ça a un vrai impact que j'imagine que vous étiez prêt pour commencer la saison. Quoi.
On était prêt, on avait fait 4 matchs officieux avec des équipes de la région parisienne, deux équipes de National 3 et deux équipes de Prénat, en sachant que la R1 ou la Prénat en Île-de-France est plus forte que celle de Normandie.
D'accord.
Et on s'était bien comporté. Donc, on était assez optimiste. Notre objectif, c'est pas de monter en National 3, ça pourrait nous arriver. Le monde sportif est comme ça. Un club, une équipe sportive, on sait pas comment la mayonnaise prend souvent.
C'est ça.
Et donc, on a une chance d'être pris dans le play-off. Si on n'est pas, on n'en fera pas une maladie.
Ouais, ça reste quand même un objectif, à atteindre,
raisonnable,
mais pas forcément tout de suite.
Oui.
C'est vraiment un peu plus...
L'année dernière, on était cinquième. Or, quand on sait que la Haute-Normandie, à l'époque, il y avait Haute-Normandie et Basse-Normandie, cinquième en Haute-Normandie, on sait que la Basse-Normandie est un peu plus faible que nous. Donc, on devrait se positionner
dans les mêmes environs.
Dans les mêmes environs, quoi.
Ok.
Avec les renforts que nous avons eus.
Que après, c'est pareil, c'est du long terme aussi que vous voyez avec cette équipe.
Oui, parce que l'équipe senior n'est pas une vieille équipe. On a un ou deux à 30 ans, mais le reste, c'est des 20, 21 ans. Donc, on a le temps de voir venir, quoi.
La question que je me posais, c'est vous avez des étrangers dans le club, enfin dans les joueurs seniors,
non,
notamment ?
Est-ce qu'on en a eu ? Je sais qu'il y en a eu. Hein.
Ouais.
Il y a eu un Américain quand on est monté en National 4 il y a une vingtaine d'années. Je sais qu'il y a eu un Américain. Non, on n'en a pas, je ne crois pas. Non, c'est les petits Français, les petites Françaises. Même s'ils sont noirs ou arabes, c'est les Français.
Oui, bien sûr.
Ils sont nés ici.
Ils sont nés ici. Du coup, ouais, voilà. Vous n'avez pas eu trop de problèmes avec cette période de crise sanitaire, vous, cette reprise depuis le début.
On s'en serait passé, mais quand je vois les... ce que disent les autres, on s'en sort pas trop mal, quoi.
Ouais.
Il y a des clubs qui ont baissé. À Gaillon, ils n'auront plus de jeunes.
D'accord, ils ont dû retirer leurs équipes de jeunes.
C'est pas... Bon, il faut savoir que quand même, le sport collectif, en tout cas le basket, mais le sport collectif en général, c'est plus prenant que les autres sports. Un jeune qui s'engage dans le basket, il est pris deux fois par semaine, plus le samedi ou le dimanche.
Oui, parce qu'il y a des automatismes aussi à
et le match, les matchs, il y a de nombreuses compétitions. On n'a pas 5 ou 10 compétitions dans l'année. On en a par équipe une vingtaine.
Donc, ouais.
Il faut qu'il soit là. Quand il signe, il doit savoir à quoi il s'agit.
Il doit s'impliquer vraiment.
Tout à fait. Et cette année, j'ai l'impression qu'il s'implique plus que l'année dernière. L'arrivée d'Angelo joue aussi, parce que ça a des répercussions sur les autres jeunes.
Oui, bien sûr. Parce que les jeunes ont envie d'arriver à ce niveau-là et de pouvoir côtoyer une légende du basket français, mine de rien.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est le but de l'opération. On fait la com que la FFVB ne fait pas. Pourtant, ils ont des super joueurs.
Bah, c'est ça le problème. Parce que bon, on va pas revenir là-dessus, mais par exemple, un joueur comme Rudy Gobert en NBA qui était deux fois champion, deux fois défenseur de l'année, qui est encore dans le top 3 cette année.
C'est une locomotive.
Il n'y a pas beaucoup de Français qui ne connaissent pas trop le basket. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, en fait.
Oui, oui. C'est... Oui, mais les gens connaissent la NBA, mais ne connaissent pas le...
Oui, c'est ça. Les gens connaissent la NBA, les gens connaissent Tony Parker, parce que forcément. Mais si tu leur demandes des joueurs actuels français, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables d'en dire beaucoup.
Il faut dire que je vois pour les filles...
pareil pour le basket féminin, bien sûr.
Les filles font... de la NBA, enfin la NBA...
La WNBA, oui. Women...
Et ils font après le championnat de France.
C'est ça.
C'est le cas, par exemple, de...
Marine Johannes.
Johannes qui fait les deux.
Elle s'arrête jamais.
Ça s'arrête jamais.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant. Céline Doumerou aussi le faisait.
Oui, exactement.
Alors, c'est vrai que c'est pourtant tout ça, c'est des éléments possibles à faire valoir. Mais non, ça marche pas. Quoi.
Ça ne vient pas.
Le handball ou le rugby sont des meilleurs communicants que nous. Quoi. J'ai l'impression que la FFBB s'endort sur ses lauriers.
Alors, du coup, pour conclure, comment est-ce qu'on peut rejoindre le club? Comment est-ce qu'on peut...
Bah, pour rejoindre le club, on peut venir le mercredi et puis le samedi. Il y a toujours des dirigeants. On est beaucoup de dirigeants, donc il y a toujours quelqu'un pour recevoir. C'est que maintenant, en basket, la FFBB a mis les licences informatisées, c'est-à-dire que c'est de chez vous que vous adhérez à un club.
D'accord.
Par un système d'informatique. Vous cliquez, puis vous arrivez et vous êtes inscrit.
Vous arrivez à ce que vous voulez.
Oui.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alain Estival.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être venu nous présenter le SPN Vernon Basket et nous avoir parlé de toute cette histoire du basket. Mondial et français. C'est tout pour votre émission. L'association de la semaine, passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.